à toutes et à tous sur les ondes de Radio G101.5 FM. Vous êtes les bienvenus dans l'émission Les Plantes Vagabondes, proposée par l'association Le Plantis à Écuyer. Le coworking rural collaboratif et gourmand incontournable du nord de l'agglomération angevine. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil, et en compagnie de Christelle, réflexologue plantaire et relaxologue, deux fois par mois, nous partons en nature prendre un peu d'air pur à la découverte des plantes sauvages. Au fil des saisons, nous vous invitons à vous familiariser avec elles, à travers leurs légendes, leur mode de vie et leurs usages. Vous retrouverez en fin d'émission la chronique Le bonheur est dans les simples. Il sera animé par Laura pour sa seconde chronique dans les plantes vagabondes. En ce mois de mars printanier, nous poursuivons notre série d'émissions sur les fleurs printanières avec la jonquille. Et bien entendu, nous commençons tout de suite en poésie avec ce poème intitulé « Les jonquilles » du poète anglais William Wordsworth et traduit par Catherine Réau-Cronier. J'errais solitaire comme un nuage qui flotte au-dessus des vallées et des monts. Quand tout à coup je vis une nuée, une foule de jonquilles dorées à côté du lac sous les branches, battant des ailes et dansant dans la brise. Drue, comme les étoiles qui brillent et scintillent sur la voie lactée, elle s'étendait en une longue ligne sans fin, le long du rivage d'une baie. J'en vis 10 000 d'un coup d'œil, agitant la tête en une danse enjouée. Les vagues dansaient à leur côté, mais elles surpassaient les vagues étincelantes en allégresse. Un poète ne pouvait qu'être gai en une telle compagnie. Je les contemplais, mais pensais peu au présent qu'elles m'apportaient. Car souvent, quand je m'allonge dans mon lit, l'esprit rêveur ou pensif, elles viennent illuminer ma vie intérieure, qui est la béatitude de la solitude, et mon cœur alors s'emplit de plaisir et danse avec les jonquilles. La jonquille fait partie de la grande famille des narcisses. Annonciatrice du printemps et du renouveau, les narcisses illuminent notre imagination depuis des millénaires. Ils inspirent de nombreuses légendes et les Grecs en ont fait un mythe qui aujourd'hui inspire un trait de caractère souvent associé à l'égocentrisme. Dans la mythologie grecque, Narcisse est le fils de la nymphe Lyriope et du dieu du fleuve Céphise. La légende dit qu'il est très beau sans le savoir, sachant que chez les Grecs, la beauté d'un être réunit celle du corps et de l'âme, car elles sont indissociables. Chasseur émérite, inconscient de sa beauté, il rend amoureux sans retour ceux qu'il croise, ce qui pousse certains au désespoir, voire même à la malédiction. Un jour, il découvre son reflet sans savoir qu'il est le sien. Comme ceux qu'il a rencontrés précédemment, il tombe sous le charme et son premier désir est de ne faire qu'un. Puis, à force de contemplation, il finit par se reconnaître. Émerveillé et libéré, il se métamorphose en une fleur de narcisse, la première du printemps, celle qui symbolise le renouveau. Au fil des siècles, les penseurs se sont penchés sur cette parabole avec des conclusions parfois différentes. La plus célèbre, proposée par Freud en 1910, a donné naissance au concept d'estime de soi en tant que stade de développement nécessaire, mais dont l'excès pathologique conduit au narcissisme et à l'égocentrisme. Pour ma part, je souhaite partager avec vous l'interprétation défendue par le philosophe Fabrice Midal, notamment dans son ouvrage « Suis-je hypersensible ?». Selon lui, la métamorphose de Narcisse symbolise la mort de l'ego et l'épanouissement de soi. Il s'agit de retrouver en nous le sens profond de l'existence. La splendeur des chants de Narcisse a subjugué les Grecs qui l'ont choisi pour illustrer la renaissance, l'éclosion de la vie en soi. Il s'agit donc d'une métaphore pour inviter à l'acceptation de soi, pour être libre et sortir du labyrinthe de l'ego et des injonctions sociales qui cherchent à uniformiser et standardiser les comportements dans une logique productive. Si vous ne goûtez guère la psychanalyse ou la philosophie, vous pouvez vous contenter de goûter la beauté des premières fleurs en oubliant la fin des peines de l'hiver et en vous réjouissant du retour du bonheur. En parlant de Narcisse et de printemps, rien de tel qu'une pause enjouée en chanson avec Hugo Frey et sa chanson « Des jonquilles au dernier lilas ».
j'ai connu Émilie aux premières jonquilles. Elle était si jolie. Dans la ferme endormie, chaque fois que j'allais la voir, son père m'attendait derrière l'abreuvoir. Il me chassa, me fusilla le salaud. Un jour dans la grange loup, aux premières jonquilles, elle sauta sur mes genoux, des jonquilles dernier lilas. Une fourche me piqua, je me relevais en hurlant. Je beau fuir à travers bois, son père me jeta dans l'étang. Il me piqua et me fourcha, mais dans le grenier sur le foin, aux premières jonquilles, prit sa fille et but son vin. Des jonquilles dernier lilas. Son père voyant le tableau me fit connaître un peu plus tard les grenouilles et les crapauds au fond de la mare au canard. Il m'injuria et me noya. Oui, j'ai connu le sel et le plomb aux premières jonquilles. J'ai connu l'eau jacques cochon des jonquilles dernier lilas. J'ai laissé mes amours là, mille fois j'ai frôlé la mort. Est-il encore derrière moi? Que m'importe, je cours encore. Je vais aux premières jonquilles du pré au bois, des jonquilles derrière les là. La 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 la, et voilà.
Es-tu Narcisse ou jonquille? Es-tu garçon? Es-tu fille? Je suis lui et je suis elle. Je suis Narcisse et jonquille. Je suis fleur et je suis belle fille. Ce court poème de Robert Desnos est un beau préambule pour parler botanique et se retrouver dans les noms. Alors dit-on Narcisse ou jonquille? Le Narcisse sauvage ou Narcissus pseudo-Narcissus est le plus commun et appartient à la famille des Amaryllidacées. Narcikos signifie « fleur » en grec. Il faut imaginer qu'à une autre époque, on en trouvait d'immenses tapis qui illuminaient littéralement bois feuillus et prairies. On lui donne aussi le nom de jonquille, emprunté à tort à sa cousine méditerranéenne, Narcissus jonquilla, car son feuillage lancéolé et dressé évoque celui du jonc lorsqu'il sort au printemps. Le narcisse apprécie les sols humides et sa fleur est solitaire, contrairement à la jonquille qui en porte plusieurs. Le narcisse est une plante vivace qui passe l'été et l'hiver sous forme de bulbe. L'essentiel de son cycle aérien se déroule au printemps. Les premières touffes dressées, de 2 à 5 feuilles longitudinales, apparaissent en février. Puis, les floraisons éclatent entre mars et mai selon les expositions et les cultivars. La fleur solitaire comprend 5 tépales jaunes poussins disposés en étoiles. Les pétales soudés forment un tube central à la couleur plus vive, la paracorolle. Le narcisse peut se multiplier de façon sexuée, avec un fruit sous forme de capsule qui contient de nombreuses graines. Pourtant, le mode de reproduction le plus efficace pour lui se déroule dans le sol. Pendant tout son cycle, le cycle élabore des réserves qui seront stockées dans des bourgeons accrochés aux bulbes. Les plantes herbacées sensibles au gel ont plusieurs stratégies pour se protéger du froid. L'une d'elles consiste à stocker des réserves dans des organes souterrains hypertrophiés. Il peut s'agir des racines, comme par exemple la carotte, de la tige, comme pour le tubercule de pomme de terre, des feuilles, comme l'oignon, des bourgeons, comme l'ail, et le narcisse. Les plantes qui forment des bulbes, comme le narcisse, sont des monocotylédones, dont j'ai déjà expliqué les caractéristiques dans l'émission sur le tamier. Victimes de leur succès et de leur immense tapis fleuri, les narcisses ont souffert de trop fréquentes cueillettes. Espèce protégée dans les régions des Pays de Loire, elle est en voie de disparition à l'état naturel. Si vous souhaitez en faire des bouquets, mieux vaut en planter dans vos jardins, en sachant que leur parfum peut indisposer dans des pièces fermées. En parlant de cueillette, je vous invite maintenant à écouter l'interview de Laura pour nous donner quelques conseils.
Bonjour Laura. Tu es nouvelle adhérente professionnelle au Planty et donc je veux bien que tu nous expliques en quoi consiste ton activité.
Oui, alors mon activité consiste, alors je suis cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales et également cueilleuse. Donc mon activité consiste donc à cultiver ces plantes, à les récolter, à les sécher pour donc faire des préparations de tisane aromatique et médicinale. Également, je distille ces plantes donc à l'aide d'un alambic pour en sortir donc l'eau florale et l'huile essentielle. Je fais de la macération également de plantes pour confectionner des baumes également. Voilà, pour la cosmétique notamment.
Et alors, tes produits, on peut les trouver où ? Parce que tout ça, ça nous fait bien envie.
Eh bien, vous pourrez retrouver donc principalement les produits à Loire Créateur, à Saint-James-sur-Loire. Et également dans des petites boutiques, la boutique de Tiercé Bio. Voilà, au court-circuit à Juvardeil, au bol d'herbe à Domeray. Voilà.
Sachant que tu es installée à Chef.
Oui, c'est ça, à Chef sur Sarthe.
Voilà, voilà. Et en ce moment, c'est quand même la saison du printemps. Donc, quelles sont les opérations culturales que tu fais, justement ? Parce qu'il y a une partie des plantes que tu cultives.
Oui, donc, c'est ça. Et bien, en ce moment, alors, bon, il y a la préparation du sol, forcément, l'amendement. On plante en ce moment les rosiers, la lavande, le romarin, le thym, tout ce qui va être vivace et ce qui va résister donc aux gelées, notamment. On fait attention aux gelées tardives. En cueillette sauvage, donc en
oui,
ce moment...
Oui, il y a une partie qui est cultivée et il y a une partie qui est aussi prélevée dans la nature.
Oui.
Et donc, en ce moment, cette période-là, quelles sont les plantes, que tu récoltes ?
Alors, en ce moment, ce n'est pas le plus important de la cueillette sauvage, mais il y a quand même donc, l'ail des ours, avec lesquels on peut faire le pesto. Moi, je le destine au séchage pour faire donc du sel à l'ail des ours. Donc, je commercialise. Et également, c'est la période. Donc, bon, là, ça commence à être un petit peu tard, mais donc pour récolter tout ce qui va être bourgeons d'arbres, bourgeons de plantes. Donc, le chêne, le noyer, l'orme, le platane, la ronce, l'églantier, etc. Donc, ce sera des préparations qui vont être mises en contact avec de l'alcool et de la glycérine pour faire donc des préparations gémothérapiques ou alcoolatures.
Très bien. Donc, en ce qui concerne les prélèvements dans la nature, comme tu es nouvelle chroniqueuse dans l'émission Les Plantes Vagabondes, dans la chronique de cette émission, tu parleras justement des règles à respecter lorsqu'on fait de la cueillette sauvage, parce que parfois, on voit ça pour les champignons, il y a des gens qui viennent un peu comme des pilleurs, qui ramassent tout. Oui. Donc, il y a des règles à respecter, donc tu évoqueras ça dans cette chronique-là. Et dans le cadre du Planty, tu es venue aussi pour proposer des ateliers aux habitants, des ateliers sur les plantes. Donc, est-ce que tu peux nous en dire deux mots pour expliquer à nos auditeurs en quoi consistent tes petits ateliers ?
Alors oui, alors les ateliers donc sur lesquels je travaille en ce moment seraient donc dans un premier temps ce serait sur la confection de baumes cosmétiques, dentifrices secs, baumes à lèvres, donc des petites préparations assez simples qui seront toujours préparées et faites du coup avec des choses que j'aurais faites en amont, donc de l'eau florale, de la poudre de plantes, des huiles essentielles, voilà. Donc proposer des petites recettes afin d'être autonome sur des petites préparations donc à la maison. Et donc également, j'aimerais créer donc un bar à eau florale. Donc les eaux florales sont toutes comestibles et ce serait l'occasion de pouvoir les goûter avec de l'eau, du vin, de la bière. Enfin voilà, vraiment les associer en cuisine pour les découvrir, pour découvrir leurs saveurs. On peut également les utiliser donc en externe, mais en interne. Donc faire vraiment découvrir cette petite gamme. Et puis avec la cueillette sauvage, effectivement, bon ben faire de la reconnaissance pour se faire des salades à base de plantes sauvages ou des préparations, de cuisiner les plantes, des sirops, etc.
Le Plantier organise un hyper café le 1er avril et donc ce sera aussi l'occasion de montrer un petit peu quel type de produits tu proposes et quel type d'atelier tu proposes. Donc pour ceux qui habitent autour des Cuillers et qui viendront au hyper café, ils pourront découvrir en vrai les bien saveurs sûr. Et tout ça de tes produits.
Oui.
Et ben merci encore Laura à plus tard dans la chronique alors.
Oui, à très bientôt.
De nombreuses légendes attestent que les tapis de Narcisse sont un cadeau des fées. Le Narcisse est aussi un très joli prénom. Il est utilisé en bouquetterie et parfumerie. À cette fin, de nombreux hybrides doubles ont été créés avec des coloris allant du jaune au blanc et à l'orangé. Les bulbes utilisées en bouquetterie doivent être achetées tous les ans car la récolte des fleurs empêche la formation de nouveaux bulbes avec des bourgeons de réserve. En Anjou, les établissements turcs proposent et créent de nombreux cultivars destinés au jardin. C'est un régal pour le regard de voir les champs de production en floraison. Le plus célèbre est le narcisse trompette. Planter des bulbes de narcisse dans les pelouses est un excellent moyen facilitateur pour inciter à décaler les premières tontes à la mi-mai. Ce qui a pour avantage de laisser fleurir toutes les autres fleurs printanières, comme les pâquerettes ou les orchidées sauvages, et ce, pour le plus grand bonheur des butineurs affamés par les mois d'hiver. Oubliez les pelouses tristes et offrez-vous un tapis de fleurs gratuit. En médecine, le narcisse jaune est recommandé par Dioscoride au 1er siècle pour soigner les brûlures. Les bulbes s'utilisent contre les affections pulmonaires. La consommation des fleurs, bulbes et feuilles n'est pas conseillée car ils contiennent des alcaloïdes toxiques. Mieux vaut se limiter à les planter dans son jardin. Pour cela, un moyen mnémotechnique, planter chaque bulbe à 3 fois sa hauteur, la pointe vers le haut, pour bien le protéger des gelées et laisser se développer les bourgeons. Certaines communes, comme Montbéliard et Saint-Étienne de Montluc en Loire-Atlantique, organisent une fête des jonquilles, dont les fleurs ne sont pas cueillies dans la nature et sont issues de cultures pour les préserver. Pour conclure cette émission en beauté, une dernière citation de Carl Jung à méditer en regardant les narcisses. « Tu n'y verras plus clair qu'en regardant en toi. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde en lui-même s'éveille. » Allez, il est temps de retrouver la chronique « Le bonheur est dans les simples » avec Laura.
Bonjour, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous les bonnes pratiques de cueillette de plantes sauvages. Alors moi dans mon activité, je cueille des plantes pour faire des tisanes notamment, donc de la plante sèche, de l'aquilée, de la ronce, de l'ortie, du sureau. Je cueille également les graines de carottes sauvages pour les distiller et en extraire l'huile essentielle et l'eau florale. Le millepertuis pour les macérats huileux, la reine des prés et la racine de consoude pour les alcoolatures et les bourgeons de plantes pour la gémothérapie. Il y a une multitude de plantes, de fruits, de fleurs à cueillir dans la nature pour nos transformations. Et pour ceci, il y a quelques petites règles à respecter. Alors, dans l'idéal, il faut connaître un maximum le milieu où l'on intervient. On sait où l'on intervient. Une bonne observation du milieu, ça permet de comprendre où nous intervenons. Donc c'est en fréquentant nos sites de cueillette qu'on s'adapte le mieux à eux. Alors il est nécessaire aussi donc de cueillir sur des sites où on trouve une concentration importante de la plante et on n'en prélève qu'une petite quantité. Donc en utilisant également donc des outils adaptés. Les outils adaptés, c'est faucilles, ciseaux, avoir les paniers, les contenants nécessaires donc pour revenir de notre cueillette et que toutes nos choses soient bien séparées. C'est également prendre le temps de les transformer, savoir pourquoi on les cueille et quelle destination elles ont et avoir le temps de les transformer le jour même. Donc voilà, ça c'est des petites règles à respecter. Donc il est également nécessaire d'être sûr de l'espèce que l'on ramasse. Pas se tromper par exemple en ramassant une feuille de consoude, une feuille de digitale en pensant que c'est une feuille de consoude. Donc là, grosse erreur. Être sûr également de ramasser une plante qui n'est pas protégée. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour donc des bonnes pratiques de cueillette. Et bon, bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne cueillette à tous et surtout régalez-vous bien avec toutes vos préparations. À bientôt.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous trouverez toutes les informations pratiques, liens et références dans le blog de notre site www.leplanty.fr. N'hésitez pas à écouter, réécouter sans limite tous nos podcasts de l'émission Les Plantes Vagabondes sur radio-g.fr. Si vous avez aimé et souhaitez partager ce moment nature, faites passer le message autour de vous. C'était Claudie sur Radio G 101.5 FM. Christelle, Laura, Élise et moi vous donnons rendez-vous vendredi 7 avril pour parler du fraisier des bois.